OK, ça fait qu'on va continuer notre leçon qu'on avait débutée la semaine dernière, que la dépression et les chrétiens, on va regarder cette semaine les causes, on va continuer. On avait commencé un petit peu la semaine dernière. On avait parlé, pour reviser rapidement ce qu'on avait vu, on avait parlé qu'il y avait des dépressions qui étaient, qu'on appelle réactives, parce qu'ils peuvent, ils sont produites par des événements qu'on appelle des éléments déclencheurs, des triggers, qu'ils appellent en anglais. Et il y avait aussi les dépressions endogènes qui étaient plus celles qui étaient causées par des causes physiques, donc des déballassements chimiques au niveau du cerveau et des choses semblables. On avait regardé, on avait identifié qu'il y avait 5 déclencheurs que l'auteur a identifiés et on avait regardé les 2 premiers la semaine dernière. On va les réviser très, très rapidement. Le premier déclencheur, c'était le stress. On sait qu'on vit dans une société où il y a énormément de personnes qui sont stressées. Le stress, ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais en autant que ça ne dépasse pas une certaine mesure, s'il y en a trop, là, ça peut dégénérer en des maladies. On avait vu que le stress vient de 2 causes différentes. Donc, les événements de notre vie, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent nous arriver dans notre vie qui nous amènent du stress, dont le mariage, les déménagements, la relocalisation, les examens médicaux, scolaires ou autres, les deuils, la maladie, le chômage, la naissance des enfants, fait partie des événements qui amènent du stress dans nos vies. On avait regardé aussi que l'autre élément qui apporte du stress, c'est notre style de vie. Alors, bien entendu, on entend parler aujourd'hui plus que jamais de personnes qui mènent des vies déréglées, qui travaillent trop, qui ne se reposent pas assez, qui ne font pas d'exercice. Et tout ça, ça finit par dégénérer en dépression. C'est ce qu'on avait regardé un petit peu la semaine dernière avec beaucoup de versets. Et on avait regardé aussi ce qu'on appelle le deuxième déclencheur et on l'avait identifié. Qu'est-ce que c'était le deuxième déclencheur? C'est ce qu'on appelle les faux modèles de pensée, les patterns. Les faux patterns, on avait déjà eu une leçon complète là-dessus où on identifiait 10 faux patterns de pensée que lorsqu'on les entretient, qu'on peut s'enliser dedans et ça peut dégénérer encore une fois en dépression. On était rendu au troisième. Donc, le troisième déclencheur, c'est le péché. Comme de raison, les non-chrétiens peuvent être déprimés à cause de leur péché. La seule guérison pour une personne qui n'est pas sauvée et qui devient dépressif à cause de son péché, bien entendu, la seule guérison possible, c'est la repentance et la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Malheureusement, plusieurs déprimés non-croyants sont traités avec des médicaments chimiques alors que leur besoin réel est la conversion. Si vous êtes une personne déprimée et inconvertie à la foi de Jésus-Christ, vous devriez sérieusement considérer que votre état est relié à une conscience coupable et à une conviction de péché. Si c'est le cas, ce dont vous avez besoin, c'est la repentance et la foi authentique au Seigneur Jésus-Christ. Même si les personnes inconverties peuvent ne pas considérer que leur état est relié au péché, le contraire est parfois vrai pour les chrétiens. Lorsqu'un chrétien devient déprimé, il s'ensuit des conséquences spirituelles douloureuses, comme la perte d'assurance de leur salut. Ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Dès qu'un chrétien fait une dépression, une des premières choses qu'il se met à vivre et qui lui a fait souffrir, c'est qu'il se met à remettre en doute son salut. Parce qu'il se dit, voyons donc, ça se peut pas, je serais sauvé. Si je serais sauvé, je ne vivrais pas ça. Je ne serais pas dans cet état-là. Alors, c'est une conséquence grave. Parce que quand quelqu'un perd la joie de son salut, perd l'assurance de son salut, bien entendu, ça le met. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Ça veut tout simplement dire qu'il ne sent plus que le Seigneur est avec lui et qu'il se sent comme complètement à part. Alors, les chrétiens qui vivent de la dépression peuvent parfois sauter trop vite à la conclusion que la cause de leur dépression est spirituelle. Donc, ils pensent que c'est soit leur péché, soit leur hypocrisie, ou soit les échecs d'une sorte ou d'une autre. Cependant, comme il serait faux d'attribuer une cause spirituelle au cancer, on ne dira jamais à quelqu'un d'une cause spirituelle au cancer, quoique il peut y avoir des liens, il est ordinairement faux de penser à la dépression de cette manière. Comme pour les non-chrétiens, la dépression chez les chrétiens est aussi souvent causée par les événements stressants de la vie, ou par un style de vie manquant d'équilibre, ou par une vie de pensée caractérisée par les faux modèles de pensée qu'on a parlé, des faux patterns qu'on a parlé. C'est intéressant de noter que l'auteur que j'utilise, il a pas écrit un livre très épais, rien qu'une centaine de pages, mais j'ai jamais vu autant de matière très précise résumée dans aussi peu de pages. Mais il est allé chercher des autorités sur la dépression, et il fait des observations et il nous fait il nous dit qu'est-ce qu'ils ont dit, puis moi je l'ai traduit. Alors voici, je vais vous en donner quelques-unes. Bien entendu, dans les textes que je vais mettre sur Internet, j'ai à la fois la véritable citation en anglais et moi je l'ai traduit librement du mieux que je pouvais en français. Alors si les gens qui téléchargent le document vont pouvoir voir si je suis un bon traducteur ou si je pourris. Mais d'après moi, j'ai fait un travail raisonnable, disons. Alors, l'auteur veut nous faire prendre conscience de plusieurs choses. Il nous dit qu'il vient nous citer des personnes qui connaissent bien la dépression parce qu'ils ont travaillé avec des personnes déprimées soit dans leur métier ou pour toutes sortes de raisons. Donc, il y avait des pasteurs. À l'intérieur des citations qu'il va nous donner, il va y avoir des pasteurs. Il va y avoir aussi des psychiatres. Il va y avoir aussi des conseillers. Et il va y avoir aussi des médecins. Alors, là, on va les prendre une par une. Je vais vous dire où je l'ai pris, mais sans le donner en anglais, parce que ça ne donnera pas grand-chose. Je vais juste vous donner la traduction française. Alors, il y en a un qui a écrit John Lockley dans « A Practical Workbook for the Depressed Christian ». Autrement dit, on pourrait traduire ça comme un livre pratique pour le chrétien déprimé. Alors, je traduis la citation pour montrer que eux, quelle est leur pensée sur la dépression. Alors, voici ce qu'il dit John Lockley. Les causes vraiment de nature spirituelle de la dépression ne sont pas choses communes. La plupart des chrétiens qui vivent une dépression de nature qui s'apparente à un contenu religieux, il s'avère plutôt que les causes soient de nature mentale et émotionnelle que de nature spirituelle. Autrement dit, ils pensent que c'est plus de nature mentale et émotionnelle que de nature spirituelle. Il dit « Je ne peux mettre suffisamment l'emphase sur ce point. Les dépressions chez les chrétiens sont non fréquentes, celles qui ont des causes spirituelles uniquement. » Ça, c'est son opinion. Une autre opinion, c'est celle de Steve et Robin Bloom dans leur livre qu'ils ont écrit « Broken Minds ». « Broken Minds », ça veut dire « les esprits brisés », qui fait allusion à la dépression. Voici ce qu'il dit, lui, ces deux personnes-là. « David et d'autres psalmistes se sont trouvés profondément déprimés pour diverses raisons. Ils ne se sont pas excusés pour ce qu'ils ressentaient, ni ne l'ont-ils confessé comme étant péché. C'est une part légitime de leur relation avec Dieu. Ils interagissaient avec Dieu à travers le contexte de la dépression. » Alors, s'il faudrait aller regarder toutes les Écritures, dans les psaumes particulièrement, où on a des personnes, ou ailleurs aussi, on a des personnes qui vivent des choses difficiles. Alors, ils ne le confessent pas toujours comme un péché. Ils confessent, ils parlent avec Dieu. Il y a une relation qui s'établit avec Dieu, qui est plus une relation de dialogue. Prenons l'exemple de Job. Job, il arrive plein de choses, puis il ne comprend rien. Il est toujours en train de questionner qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et ses trois amis qui essayent de les encourager sont loin de faire un bon travail, comme on dit. Au contraire, ils font encore plus souffrir. Je pense qu'il y a des leçons à prendre. Dans le livre de Job, c'est un livre très riche pour nous parler de dépression, pour nous parler de qu'est-ce que le Seigneur peut faire des fois dans les vies des personnes. Alors, on va regarder une troisième citation. Celle-là, c'est de Chris Williams, Paul Richards et Ingrid Witten qui ont écrit un livre qui s'appelle « I'm not supposed to feel like this ». Alors, ces trois personnes-là ont écrit un livre qui s'appelle « Je suis pas censé de me sentir comme cela ». Alors, voici ce qu'ils disent, eux, ces trois personnes-là, après avoir étudié le problème de la dépression dans son ensemble. Il dit, nous sommes pleinement d'accord qu'il y a toujours des aspects spirituels à l'anxiété et à la dépression, comme il y en a dans toute la vie chrétienne. Cependant, nous voyons ces choses comme étant une conséquence secondaire de la détresse émotionnelle qui fait partie de ces maladies. Les affirmations catégoriques que toutes les anxiétés et les dépressions sont spirituelles dans leur origine n'aident pas parce qu'il manque le point véritable, que le véritable problème est l'anxiété et la dépression. Autrement dit, eux, ils ne croient pas que c'est que toutes les causes de dépression chez les chrétiens ont un lien avec le péché. Il y a toujours du péché dans la vie de qui que ce soit, là. Mais ce n'est pas nécessairement la cause directe. David Murray, celui qui a écrit le petit livre que j'utilise, lui, il dit, il affirme qu'il n'irait pas aussi loin que John Locke lorsqu'il dit que les causes vraiment spirituelles de la dépression ne sont pas communes. Lui dit, Murray est plutôt d'avis que la dépression n'est pas toujours causée par le péché personnel. Murray met beaucoup d'emphase sur ce point lorsqu'il affirme que toujours blâmer le péché comme cause de la dépression est non seulement faux, mais aussi que cette idée peut s'avérer nocive. Alors, cette idée nocive contribue à augmenter le sentiment de fausse culpabilité de la personne déprimée et creuse davantage ses sentiments d'échec. De plus, cela amène le chrétien à chercher une solution à son problème qui peut simplement être de l'ordre physique, des événements de sa vie, de son style de vie ou des faux modèles de pensée. Alors, si tu cherches la cause dans quelque chose de spirituel, comme de quoi c'est péché, alors que la cause est de l'ordre physique, un débalancement, ou des événements de ta vie, il était arrivé à un événement majeur qui cause une dépression dans ta vie, ou bien non, ton style de vie, parce que tu peux être chrétien, puis tu peux mener des vies désordonnées en termes de manquer de sommeil, faire trop de travail, etc. Alors, quelque part, si tu ne regardes pas la cause à la bonne place, c'est sûr que ça ne t'amènera pas vers la guérison. Ou bien non, si la personne chrétienne, après, au moment qu'elle fait sa dépression, ne prend pas le temps d'examiner s'il n'y a pas dans sa vie, sur les 10 faux patterns de pensée, là, s'il n'y en a pas un ou deux ou trois, ou peut-être même toutes les 10 tout installées dans sa vie, qui fait en sorte que ce n'est pas le péché qui cause son problème, c'est sa fausse manière de penser. Comme on a vu la semaine dernière, la dernière citation qu'on avait faite, on avait vu que ce qu'on appelle nos valeurs fondamentales nous sont inculquées par nos parents ou par ceux qui nous ont éduqués et que ça nous suit toute notre vie. Et que des fois, ça peut contribuer à être la cause de notre état. Alors, moi, je trouve que l'idée qui amène ici est très intéressante dans le sens que si tu regardes juste du côté du péché, alors que c'est ton style de vie ou des faux patterns de pensée ou des événements qui se sont produits dans ta vie ou une suite d'événements, bien, à ce moment-là, tu fais fausse route. Tu fais complètement fausse route. Alors, tout ceci étant dit, nous devons laisser la possibilité qu'une dépression peut parfois résulter d'un péché spécifique ou de plusieurs péchés, tels que décrits, par exemple, par David dans le psaume 32. Dans le psaume 32, c'est un... David avait péché. Il avait couché avec Bathsheba. Il avait fait tuer son mari indirectement là, par son général, mais en tout cas, il était quand même coupable. Il était profondément déprimé. Mais lui, son péché était la cause de sa dépression. Il ne filait pas, comme on dit, mais il s'est rendu compte parce que le prophète est allé le voir, puis il lui a fait voir que C'est toi, cet homme, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, là, mais c'est toi, cet homme-là. Et là, David, il a comme d'un coup sec, il s'est rendu compte, oh, j'ai péché gravement contre Dieu. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de conséquences à ça. Il a perdu 4 enfants à cause de ça. Alors, quand il dit, quand l'autre, le prophète, lui avait dit, le quadruple, là, quand vous lisez qu'est-ce que le prophète a dit, puis qu'est-ce qui est arrivé après dans sa vie, c'est exactement ce qui est arrivé. Il a perdu 4 enfants comme conséquence de son péché. Psaume 32, versets 2 à 11. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel n'y a point de fraude. Quand j'ai gardé le silence, mes os se sont consumés dans mon rugissement de tout le jour. Car jour et nuit, tu appesantissais ta main sur moi. Dans ces ardeurs d'été, ma sève s'est tarie. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai à l'Éternel mes transgressions, et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché. C'est pourquoi tout homme qui t'aime te prie dans le temps où l'on te trouve. Certainement, les grandes eaux, dans leur débordement, ne l'atteindront point. Tu es un asile pour moi. Tu me gardes de détresse et tu m'entoures des cris de joie de la délivrance. Je veux te faire agir sagement et te montrer la voie où tu dois marcher. Je veux te conseiller, mon œil est sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, dépourvu d'intelligence, sans le mord et le frein dont on l'orne pour le maîtriser. Il n'approche point de toi. Il y a de nombreuses douleurs pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel, la grâce l'environne. Réjouissez-vous en l'Éternel et tressaillez au juste et poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, bien entendu, on pourrait aller chercher d'autres passages du livre des Psaumes où David déverse son cœur devant l'Éternel et il se rend compte que son état dépressif a un impact sur sa santé physique. Quand il dit, par exemple, « Mes os se sont consumés », quand il dit « Ta main s'appesantissait sur moi, ces ardeurs d'été, ma sève s'est tarie », autrement dit, il est en train de dire « Je suis en train de sécher le bout ». Son péché l'avait emmené à un grand, grand, grand désarroi. La confession de Westminster. Dans les textes de Westminster, édition Kerygma, 1988, à la page 13, au chapitre 5, au paragraphe 5, ça dit ce qui suit. C'est intéressant. Dans sa sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu livre ses enfants, pour un temps, à de multiples tentations et à la corruption de leur propre cœur, afin de les punir pour leurs péchés antérieurs, ou de leur découvrir la puissance cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur pour qu'ils soient humiliés. Et là, il donne des versets, 2 Chroniques 32, 2 Samuel 24. En tout cas, on n'ira pas les lire aujourd'hui. Mais il les amène ainsi, Dieu amène ainsi les enfants à dépendre plus étroitement et plus constamment de lui et à chercher en lui leur appui. Il les rend plus vigilants face à toutes les occasions futures de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. 2 Corinthiens 12, versets 7 et 9. C'est intéressant d'aller regarder ces versets-là puis de les réviser, de voir comment Dieu agit. Parfois, il y a la main de Dieu dans ces événements-là. Et il le fait pour des raisons particulières. Et on a besoin parfois de s'arrêter, de méditer sur ces choses-là. On va aller regarder 2 Chroniques 32, versets 25 et 26 et versets 31. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et il y eut de l'indignation contre lui et contre Juda et Jérusalem. Mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de son cœur, lui et les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Toutefois, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers vers lui pour s'informer du prodige qui était arrivé dans le pays. Écoutez bien ce que ça dit. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Spécial. Il faut vraiment voir que c'est Dieu qui permettait qu'il soit humilié pour que lui reconnaisse qu'il avait vraiment du mauvais dans son cœur et de la faiblesse et de la misère. Dans le but, comme on a vu dans la citation tout à l'heure de la confession de foi là, de Westminster, de t'amener à dépendre davantage de lui, etc. 2 Samuel 24, verset 1. Et la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il incita contre eux David en disant: va, fais le compte d'Israël et de Juda. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là aussi, où ça dit que c'est Dieu qui a dit à David d'aller faire le décompte du peuple d'Israël. Alors son général, il a dit: ben non, fais pas ça, je ne veux pas que tu fasses ça, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait pareil, mais l'Écriture nous dit que ça venait de Dieu. Alors David aurait dû se rendre compte, puis on sait que ça lui a coûté cher ça aussi, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre d'hommes qui sont morts à cause de ça. N'es-tu qui s'en souviennent? 70 000 personnes. Alors, des fois, il y a des péchés qu'on peut commettre qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. On a aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9. Et ici, on parle de Paul dans le contexte. Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Mais il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est spécial, hein? Il y avait eu des révélations comme fort probablement très, très, très peu de chrétiens ont obtenu. Dieu avait permis qu'ils voient des choses célestes, qu'ils entendent des choses célestes. Il y a eu des expériences qui dépassaient tout ce que les chrétiens en général ont jamais connu de leur vie puis qu'ils connaîtront peut-être jamais non plus. Alors Dieu, à cause du fait qu'il lui a fait ces révélations-là, savait que Paul aurait pu s'enorgueillir de cela. Et Dieu a fait en sorte que ce qu'on appelle, il dit que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes relations. Il m'a mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter afin, dans le but que je ne m'élève point. Autrement dit, Seigneur, il a donné une bénédiction d'une telle ampleur que s'il n'avait pas permis cette souffrance-là, que Paul trouvait ça tellement intense qu'il a dit au Seigneur à trois reprises: Seigneur, débarrasse-moi de ça, je ne suis plus capable. Puis Seigneur dit: non, tu vois, je te le laisse, ma grâce te suffit. Vis avec, il y a une raison pour laquelle je t'en envoie, comprends-le, accepte-le, reçois-le. C'est aussi simple que ça. Hein? Comment donc un chrétien peut-il savoir si sa dépression a une cause spirituelle ou si ce sont simplement des conséquences spirituelles? L'auteur John Lockley, dans son ouvrage « Practical Workbook for the Depressed Christian », à la page 57, l'exprime comme suit. Encore, on fait la traduction. « Pour le chrétien, les causes authentiques et spirituelles de dépression impliquent ordinairement un comportement que le chrétien sait qu'il ne devrait pas avoir et qu'il connaît comme étant fautif, mais qu'il s'acharne à pratiquer de façon délibérée et arrogante. Je ne parle pas de péchés répétés dont il aimerait contrôler, mais qu'il ne réussit pas à le faire, mais à une rébellion délibérée et continuelle pour Dieu. » Bon, on ne parle pas de la même chose, là. On parle d'un péché. On sait qu'on a tous des péchés dans nos vies. On aimerait vraiment non ça s'en débarrasser. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Moi j'aimerais ça, certains, m'en débarrasser. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle que la dépression peut être causée par vraiment une rébellion délibérée. Délibéré, c'est que tu sais que tu es en faute, puis tu le fais pareil. Tu es une tête de CO. Alors, des fois, il y en a qu'on peut être dans cet état-là. Là. Alors, l'auteur, lui, Ed Welch, suggère que la personne déprimée se pose quatre questions. Les questions que je vais vous donner, là, qui sont détaillées et qui sont de nature à te sonder quand ça arrive. Il dit: voyez-vous une des choses suivantes dans votre vie? On va faire, il y en a quatre, là, on va le faire, puis après ça, on fera le reste la semaine prochaine. Question 1, Avez-vous fait de quelqu'un le centre de vos vies? S'il vous arrivait de perdre cette personne, est-ce que vous vous sentiriez isolé et que votre vie n'aurait plus de sens? Pouvez-vous voir que cette attitude ressemble à ce que la Bible qualifie d'idolâtrie? Vous êtes possiblement porté à adorer la créature plutôt que le Créateur. Quand tu te rends compte qu'il y a une personne qui est le centre de ta vie, là, que si tu la perds, la vie n'a plus de sens, là, peut-être que tu commences à faire un peu d'idolâtrie. Tu fais prendre la place de Dieu à un être humain. Deuxième question, vous sentez-vous comme si vous étiez un échec aux yeux des autres? Croyez-vous que l'opinion des autres concernant vos succès sont d'une importance capitale? Autrement dit, tu es en train de dire, est-ce que tu as absolument besoin d'être applaudi par les autres? T'sais? Pouvez-vous identifier les racines de ce mal et voir comment cela peut vous faire glisser dans la dépression? Se peut-il que les opinions des autres soient devenues vos petits dieux et qu'ils soient devenus plus importants que de servir Christ? C'est à réfléchir. Hein? L'être humain peut être capable d'aller chercher pour lui les opinions des autres, les applaudissements, c'est plus important que le Seigneur. Alors, c'est pour ça que les quatre questions, il te demande de te les poser sérieusement, puis honnêtement, en prière, à genoux devant le Seigneur, puis dire, c'est-tu ça que je vis? C'est-tu ça que je suis en train de faire? Troisième question, sentez-vous que vous avez fait quelque chose d'incorrect et que vous cherchiez à gérer votre péché en dehors de la croix de Jésus? Nous voulons toujours croire que nous pouvons faire quelque chose comme vraiment se sentir mal pour nos péchés, mais qu'il s'avère que cela ne soit que de l'orgueil spirituel. Autrement dit, quand tu essaies de régler ton problème de péché en dehors de la croix, en pensant, ben là, si je souffre, si Marie t'a la en allant vraiment chercher ta solution ailleurs qu'à la croix, tu es déjà dans cette sorte de péché-là. Alors, le danger réside dans la minimisation et la beauté de l'efficacité de la croix pour le plein paiement de nos péchés. Quand on cherche à justifier nos péchés par d'autres choses que la croix, on est vraiment loin d'impétent. Quatrième question, êtes-vous en colère et vous ne pratiquez pas le pardon? Vous pouvez alors facilement glisser dans la dépression. La simple formule est la tristesse plus la colère égale la dépression. Ce qui nous met en colère nous montre ce que nous aimons. Le manque de pardon nous indique que nous ne sommes pas prêts à faire confiance à Dieu pour raccommoder nos cœurs brisés et de juger avec justice. Je me souviens d'avoir déjà parlé à quelqu'un qui vivait. Je ne suis pas capable d'y pardonner. Je ne suis pas capable, c'est plus fort que moi. J'ai dit, as-tu pensé qu'est-ce que le Seigneur, si c'est un frère en Christ, le Seigneur, le péché qu'il vient de commettre envers toi, là, lui, il l'a payé, puis il l'a payé full pin, comme on dit, il l'a payé plein prix. Console-toi donc avec ça, pardonne-lui en sachant que toi, tu n'as pas besoin de voir comment tu aurais aimé qu'il soit puni. Dieu a puni ce péché-là dans son fils. Concentre-toi là-dessus, puis tu vas avoir aucune misère à lui pardonner. N'est-ce pas que c'est vrai? La manière de régler ce problème est de déverser nos cœurs devant Dieu. Les psaumes sont très souvent à utiliser comme des prières. Demandez au Seigneur de vous donner plus de foi afin de lui faire confiance comme votre défenseur et votre aide. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On terminera la semaine prochaine.